Nous allons lire et relire donc Exode chapitre 17. Une bonne manière d'apprendre des textes en les relisant d'étude en étude. Exode 17, les versets 8 à 16. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combats Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. » Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek, et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris ceci dans le livre pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom Yahvé Nissi, l'Éternel, ma bannière. Et il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek, de génération en génération. Dans le Nouveau Testament, lisons dans Romains au chapitre 8, ce qui est la conclusion de cette structure extraordinaire de l'édifice de notre salut. Dans ces quatre grandes dimensions, justification, sanctification, glorification, trois dimensions qui viennent après la condamnation. Et nous avons là le sommet dans ces versets 28 à 38 du chapitre 8 de Romains. Nous savons, du reste, que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de nombreux frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, innocentés, acquittés, considérés comme justes. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril, l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous avons donc annoncé d'emblée, dès vendredi soir, qu'il était possible, en tout cas pour ma part, de détecter, d'identifier dans ce petit paragraphe d'Exode 17 consacré à la victoire d'Israël sur Amalek, 9 caractéristiques de la guerre spirituelle telles qu'elles sont présentes tout au long des Écritures. Après un certain nombre de préalables, de points d'introduction, nous avons considéré 3 de ces 9 caractéristiques. Nous avons vu que nous avons affaire à un ennemi rusé, sans scrupules, sournois, implacable. Nous aurons pu ajouter fort intelligent. Nous avons identifié cet ennemi, nous avons évoqué longuement hier soir Amalek. Et ce matin, nous nous sommes arrêtés sur la dimension totalitaire de cette guerre spirituelle. Nous sommes engagés dans une guerre totale. J'aimerais, dans le temps qui nous reste pour développer la suite du sujet, mettre en évidence quelques aspects des 6 autres points, privilégier ce qui m'apparaît pour cet après-midi dans le cadre de cette série peut-être plus important, passer très rapidement sur d'autres aspects, mais en tout cas vous donner quelques sujets de réflexion à prolonger, à développer pour la suite de votre vie personnelle comme de votre vie d'église. Et puisque nous parlons de vie d'église, soulignons que la 4e des caractéristiques de la guerre spirituelle, c'est qu'il s'agit d'un combat collectif. Il s'agit d'un combat d'équipe. Et dans un sens, c'est aussi une guerre totale dans cette dimension-là. S'il y a un danger majeur dans la vie du disciple de Jésus-Christ, c'est celui de s'isoler, de se tenir à l'écart, de développer une sorte d'individualisme dont vous savez que c'est un des talons d'Achille du tempérament gaulois. Nous sommes un peuple terriblement individualiste et cela se ressent dans le paysage de nos vies d'église évangélique. Non à l'individualisme malsain et dangereux. Précisément parce que nous avons affaire à un ennemi rusé qui guette et qui fait tout pour isoler. Nous avons vu comment il s'attaque en particulier à ceux qui se traînent à l'arrière, à ceux qui laissent une distance s'établir entre l'ensemble du corps et eux-mêmes. Il y a déjà un certain nombre d'années, je donnais une série d'études dans une église évangélique de Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe donc, et le thème tournait autour de la vision biblique de l'église locale, son fonctionnement. Et j'avais parlé de ce problème de l'isolement et de l'individualisme. Quelqu'un est venu me voir à la fin de l'étude et m'a dit « Écoutez, j'ai une illustration à vous proposer parce que j'ai vécu cette semaine un événement qui est très intéressant, significatif et qui pourrait vous servir par la suite. Et je lui en suis encore aujourd'hui très reconnaissant, bien que l'histoire ait un côté assez désagréable. Voilà ce qu'il avait vécu dans la semaine. Il avait vécu un incident dans lequel un habitant de son coin, en utilisant une machette, s'était tranché un doigt de pied. Très rapidement, il se rend à l'hôpital le plus proche, qui heureusement n'était pas très loin, et quand il se présente aux urgences, le médecin constate et très rapidement lui dit: écoutez, monsieur, est-ce que vous avez le doigt? Oui, oui, est-ce que vous avez le doigt qui a été tranché? Et le monsieur lui dit: non, je ne l'ai pas, mais ce n'est pas bien loin, est-ce que vous voulez? Oui, 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 surtout. Et on dépêche quelqu'un sur l'endroit de l'accident, qui était donc tout frais, hein. Et cette personne se met à chercher, interpelle les gens autour d'elle: est-ce que vous avez vu le doigt de monsieur? Et très rapidement, quelqu'un dit: écoutez, il est inutile de chercher, j'ai vu un chat passer par là. Ouais. Et en l'occurrence, dans la guerre spirituelle, qui est le programme du disciple de Jésus-Christ, ce n'est pas à un chat que nous avons affaire. C'est un lion. Un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Et trop de disciples de Jésus-Christ se conduisent en doigts de pied isolés. Cela ne veut pas dire qu'ils n'ont pas du tout de vie d'église. Mais cela veut dire qu'ils ne sont pas amarrés à une vie d'église locale. Ils ne sont pas ancrés à une vie d'église locale. Ils butinent. Comme les papillons. Pas comme les abeilles, parce que les abeilles retournent à la ruche. Mais ils papillonnent. Ils se promènent ici et là, de spectacle en spectacle, de foire en foire, d'événement en événement. Et ils ne se rendent pas compte combien ils deviennent vulnérables. Combien ils vont développer si facilement des doctrines étranges et des comportements étranges. Parce que bien entendu, ils échappent à l'autorité déléguée par Dieu dans l'Église. Ils échappent au contrôle lié à cette autorité. Ils échappent à tous ces commandements de réciprocité dans l'église locale, qui ne sont pas là pour brimer le peuple de Dieu, mais qui sont une sauvegarde, qui sont un cadeau de l'amour de Dieu absolument extraordinaire. Nous avons évoqué ce matin Éphésiens chapitre 6. Revêtez la panoplie de Dieu. Il est tout de même frappant de constater que non seulement nous devons revêtir la panoplie de Dieu, c'est-à-dire toutes les armes de Dieu, toutes. Nous avons beaucoup insisté sur le caractère totalitaire là aussi. C'est la panoplie. Nous n'avons pas le droit de sauter à califourchon par-dessus la ceinture de la vérité, disant il faut privilégier la promptitude comme chaussure, n'est-ce pas, de l'évangile de paix. On peut faire de l'évangélisation. Je suis zélé pour l'évangélisation. Je suis aux premières loges dans l'évangélisation. C'est très important. Mais pendant ce temps, on saute à pieds joints par-dessus la transparence, la fidélité, la limpidité, la loyauté, la vérité, qui pourtant, nous l'avons vu ce matin, est cette ceinture qui tient tout le reste ensemble. Mais ce que j'aimerais ajouter, c'est que Non seulement il y a un aspect totalitaire dans ce fait que c'est la panoplie, l'ensemble des armes qu'il faut porter, mais aussi c'est un impératif pluriel. Pluriel. Revêtez-vous. C'est-à-dire que l'apôtre Paul prend soin de s'adresser au peuple de Dieu dans sa globalité. Pourquoi ? Mais parce que autant un soldat romain isolé était vulnérable, autant dans la mesure où il s'intégrait à l'armée, il devenait redoutable. Et vous savez combien la valeur de l'armée romaine se mesurait à la cohésion de la soldatesque. Au point que les armes utilisées, là aussi, étaient faites, entre autres, pour travailler ensemble. Si nous évoquions, on va prendre un exemple, le bouclier. Il y a dans les Écritures plusieurs boucliers. Les termes grecs permettent de différencier certains boucliers d'autres boucliers, le petit bouclier rond du grand bouclier, et en l'occurrence dans Éphésiens 6, le bouclier de la foi, ce n'est pas un petit bouclier personnel, individuel. C'est un grand bouclier. D'ailleurs, c'est même facile à retenir, c'est un bouclier long. Le terme grec est thureos, et c'est intéressant pour ceux qui font des langues, parce qu'il vient, il est parent de thura, qui signifie la porte. Et là, on voit la famille des langues indo-européennes, en allemand, tür, en anglais, door, n'est-ce pas ? Vous avez la porte dans toutes ces langues. Donc, un bouclier, en quelque sorte, qui ressemble à une porte. Un bouclier qui est presque de la taille du soldat. Et vous savez que parmi toutes les manœuvres que les soldats romains pratiquaient sur le champ de bataille, il y avait par exemple la manœuvre qui consistait pour un premier rang de se mettre quasi à genoux avec son bouclier devant soi, ce grand bouclier, et puis en arrière à quelques pas une deuxième ligne de soldats debout avec le grand bouclier, mais ça montait un petit peu plus haut, et puis derrière il y avait ceux qui lançaient le javelot, etc., n'est-ce pas ? Mais tout cela s'était fait pour travailler ensemble, et nous pourrions parler de toutes les autres formes de manœuvres, la tortue, etc., n'est-ce pas ? Où tout était fait pour que ces armes travaillent ensemble et que ces soldats travaillent ensemble. Donc, souvenons-nous de l'importance du combat collectif et du refus de cet individualisme malsain, celui qui se tient à l'écart, ne cherche que son plaisir, que son désir, ne fait que ce qui lui plaît, dit le livre des Proverbes. Et trop souvent, nos solitudes volontaires, qui nous conduisent à grappiller un petit peu partout, sont le reflet en réalité d'une sorte d'égoïsme, d'égocentrisme. Nous nous refusons à la solidarité de l'Église locale dans les bons et dans les mauvais jours. Et nous devenons extrêmement vulnérables. Permettez que je vous cite l'extrait d'un livre et plus particulièrement les propos d'un leader d'une communauté chrétienne à Managua, au Nicaragua. Ces propos ont été rédigés en 1978, alors que peu de temps auparavant, dans le courant de l'année 1977, les chrétiens du Nicaragua ont vécu des temps très difficiles avec génocide, torture, terrorisme. Et il est à remarquer que ceux qui étaient profondément engagés les uns envers les autres par une communion chrétienne véritable furent tout à fait capables de tenir ferme au milieu de la souffrance. Et le leader de cette communauté évangélique d'écrire ceci. Ce sont les leçons que ces croyants ont apprises au travers des souffrances que leur pays et que leurs églises ont traversées dans ces années-là. Premièrement, pour faire la guerre, le moment le plus important est celui de la préparation. Nous l'avons dit ce matin, c'était un de nos enseignements forts. Pour nous tous, il importe d'agir maintenant. C'est une question vitale. Lorsque le moment réel de l'épreuve arrive, celui de la préparation est passé. Vous êtes prêt ou bien vous n'êtes pas préparé. Si vous ne l'êtes pas, vous en subirez les conséquences. Ça, c'était le premier enseignement. Deuxième enseignement. Au moment de l'épreuve, le combat spirituel double d'intensité. Le monde, la chair, le diable travaillent avec force contre vous. Être normalement fort ne suffit pas. Il est donc important d'avoir une sorte de forteresse. Troisièmement, cette forteresse se construit avec une profonde conviction, des décisions fermes, des relations sûres. Notre ferme décision doit consister à choisir le royaume de Dieu et à rejeter tout autre dominateur, à accepter Jésus comme notre maître absolu et unique, comme le maître de notre temps, le propriétaire de notre argent, de nos biens, le maître de nos pensées, de nos émotions, de nos actions. Or, vous remarquez combien nous avons insisté, déjà hier soir en particulier, sur ces dimensions-là, tant elles sont capitales dans notre guerre spirituelle. L'auteur ajoute, Jésus a déclaré que la communion devait s'entretenir avant qu'arrive la souffrance. Ainsi, quand ce sera nécessaire, nous pourrons nous aider mutuellement et aider aussi beaucoup d'autres personnes. Maintenant, nous comprenons l'importance de cette entraide et réalisons le besoin d'affermir nos relations. En plus de notre alliance avec Dieu, une alliance avec nos frères et sœurs est la meilleure assurance que nous puissions obtenir pour les temps de tribulation. C'est une déclaration solennelle. Je l'ai annoncée vendredi soir. Nous allons, bien entendu, dans l'attente du retour de Christ, de l'enlèvement de son Église. Nous l'attendons, mais nous allons de toute manière vers des temps difficiles. Et notre stabilité, notre vie de victoire à venir dans ces temps difficiles est déterminée par notre préparation en ce moment. Ceux qui pensent pouvoir se payer le luxe de se passer d'une vie d'église locale régulière, mes bien-aimés vont le regretter très sérieusement. Mais il sera trop tard. Et ils vont connaître des souffrances beaucoup plus grandes. Dans ce sens qu'ils auront, dans une situation de crise très douloureuse, des problèmes à régler dans leur propre vie et ils n'auront pas les réflexes de la communion fraternelle. Donc l'Église, sur ce plan aussi, je dirais en temps de paix, est un terrain d'entraînement. Nous nous entraînons les uns et les autres dans ces temps aujourd'hui pour les phases particulièrement intenses de la guerre spirituelle qui sont devant nous. Cinquième remarque, cinquième caractéristique qui nous vient du verset 12, dans lequel il nous est dit, Exode 17, verset 12, les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui, il s'assit dessus, Aaron et Hur soutenaient ses mains l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Dieu nous dit donc, à travers ce texte, et le confirme par une multitude certitude d'autres textes des Écritures que nous sommes engagés dans un combat qui demande de la ténacité, de la constance, de la persévérance. Nous sommes engagés dans un combat soutenu. C'est un combat permanent. C'est une guerre avec ses avancées, ses percées, ses reculs, ses fluctuations. Verset 11, nous l'avons lu. Il y a toujours un nouveau terrain à conquérir. Ça, c'est le côté passionnant. Je me demande tout ce que je vais apprendre dans les mois qui viennent dans ma marche avec Christ. On n'est jamais au bout. Ça, c'est le côté passionnant de la dynamique d'une vie chrétienne engagée. Il y a toujours une nouvelle victoire à remporter. Et nous savons que gagner une bataille, ce n'est pas gagner la guerre. Le verset 16 dit d'ailleurs, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. De génération en génération. C'est Napoléon qui, au moment où ses soldats s'apprêtaient à franchir les Alpes, s'est adressé à eux en ces termes: vous avez gagné des batailles sans canon, passé des rivières sans pont, fait des marches forcées sans chaussures, bivouaqué sans alcool et souvent sans pain. Merci pour votre persévérance, mais soldats, vous n'avez rien fait, car il reste beaucoup à faire. Je me souviens, c'était en 1984. Je venais de vivre un temps très fort d'enseignement et de formation à Madagascar. Et j'étais dans l'avion qui me ramenait dans l'île de la Réunion où un programme d'enseignement m'attendait. Et ce matin-là, pendant l'heure de voyage, je faisais ma méditation personnelle avec notamment un texte de notes bibliques qui m'a énormément soutenu. Parce que vous savez, quand vous venez de vivre un effort très intense et la soif de Dieu, la soif d'enseignement biblique à Madagascar est tellement énorme. J'avais vécu des moments tellement intenses que j'avais de la peine à sortir dans mon esprit de tout ce que je venais de vivre. Et ce matin-là, pour m'aider, dans ma méditation, le Seigneur m'a donné cette illustration du général Gordon, ce célèbre militaire lié à la guerre au Soudan, qui avait assigné à un de ses officiers la tâche de conquérir une solide forteresse. Et après plusieurs jours de combats durs et exigeants, l'officier revient au quartier général, il entre dans le camp au galop, il arrête son cheval devant le général Gordon, il fait un salut et il annonce: « Général, j'ai pris le fort. » Et son commandant de répliquer calmement: « Allez en prendre un autre. » Eh bien, j'aimerais vous dire que c'est ce qui m'a soutenu dans l'avion. J'avais l'impression ce matin-là que c'était à moi que Dieu s'adressait. « Maurice, maintenant tu vas prendre un autre fort. » Ça continue. Ne reste pas figé dans l'expérience d'hier. Ça a été beau, ça a été fort. Ne t'en occupe plus. Regarde devant. Tu es maintenant engagé dans une nouvelle étape. D'où la nécessité de fermeté, de constance, de stabilité, de pugnacité, C'est pas pour rien qu'Éphésiens 6, 11 dit « Tenez ferme, restez debout », vous vous souvenez ce matin. « Tenez debout, tenir ferme ». Le texte ajoute, et c'est très intéressant, verset 13, qu'il faut résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Et ça, c'est la richesse d'Éphésiens 6. Parce que notre problème est au niveau de la persévérance. Nous sommes engagés dans un certain combat qui va crescendo. Et puis, il arrive un moment où nous soufflons, reconnaissant, nous avons l'impression que le gros de la bataille est passé. Nous débouchons là sur un magnifique sommet. Et qu'est-ce que nous faisons ? On baisse le bouclier, on enlève la ceinture, on s'allonge éventuellement s'il y a un pâturage dans le coin. On est tellement heureux. Et Dieu dit, mais ne faites surtout jamais ça. Parce que c'est quand vous avez tout surmonté que vous êtes le plus en danger. Ce sont les lendemains de victoire qui font de nous les croyants les plus vulnérables. Parce que souvent nous oublions que les lendemains de victoire de Dieu dans nos vies sont aussi les lendemains de défaite cuisante pour la puissance des ténèbres. Et que l'ennemi est très susceptible. Et qu'il va profiter de ce relâchement, de cette vulnérabilité subite, pour nous prendre à revers, pour nous prendre par derrière. Avec une équipe de frères, hier matin, nous avons considéré ce profond découragement du prophète Élie, 1 roi 19. Et il est intéressant de constater que le profond découragement du prophète Élie, ce moment où vraiment il touche au 36e dessous, où il demande la mort, c'est aussi le lendemain de la plus grande victoire dans son ministère. Comme si précisément à cause de cette victoire, grisé par cette victoire, parce que nos victoires nous grisent, il avait laissé tomber toutes ses défenses. Alors l'ennemi a pu l'attaquer avec facilité. Et après tout, des menaces, il en avait eu. Des problèmes, il en avait eu. Combien de fois a-t-il échappé à la mort? Nous ne le savons pas, mais il a vécu des situations extrêmement difficiles. Et ce n'était pas une lettre de Jézabel apportée par le facteur qui allait être un énorme problème. Ce n'était pas ça le problème. C'était qu'il était, lui, dans une situation de lendemain de victoire. Où il n'était pas prêt. Parce qu'en quelque sorte, il avait déposé son armure à quelque part. Donc souvenons-nous de l'importance d'Éphésiens 6, résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Dans une remarquable biographie de Leclerc, pas les magasins, hein, l'autre, le militaire, c'est mieux. Enfin, n'en tirez pas de déduction, s'il vous plaît. Quelle sera dans cette guerre, écrit-il, qui a toutes les chances de devenir mondiale, celui qui gagnera? Sera-ce le combattant dit très gonflé, mais vite dégonflé? Non. Ce sera celui qui aura assez de force morale et physique pour tenir. Ce ne seront pas les agités demandant tous les 6 mois à changer d'arme, de colonie ou d'unité qui nous aideront à gagner la guerre. Ils s'écrouleront au premier échec. Ce seront les tempéraments solides et stables, faisant toujours passer l'intérêt général avant leur intérêt particulier. Vous voyez combien toutes ces caractéristiques s'interpénètrent. Même Leclerc le dit. faire passer l'intérêt général avant l'intérêt particulier. C'est-à-dire non pas seulement être ferme tout seul, mais en équipe. Vivre pour édifier les autres, dans l'intérêt de la communauté, de l'Église de Dieu. Voilà un enseignement absolument essentiel. Si un certain Alexandre, qui a eu la gentillesse de me prêter sa chambre ce week-end, avait été là, ah, que je me serais régalé. J'ai vu tant d'avions dans sa chambre. Et je lui aurais posé quelques questions sur un des personnages les plus célèbres qui a parcouru mes pensées dans mon enfance et dans mon adolescence. Un de mes héros, dont je me suis plu à lire la biographie plus d'une fois, Georges Guynemer. Parce qu'il avait une devise, merci pour celui qui vient de le dire, faire face. Faire face, oui merci, devise de l'école de l'air. Et un de ses biographes, Henri Bordeaux, décrire là est le secret de son génie, il ne renonce jamais, il ne s'avoue jamais vaincu. Sollicité un jour de choisir une devise, il prend celle qui le peint tout entier, faire face. C'est aussi Georges Guynemer qui disait, quand on n'a pas tout donné, on n'a rien donné. Quand on n'a pas tout donné, on n'a rien donné. Et il a tout donné. Sa vie. Et il y a tant d'autres exemples de ce genre. Un combat tenace, soutenu, persévérant, mais aussi, sixièmement, un combat de l'espérance. Un combat dont l'issue est certaine. Nous l'avons lu sur les lèvres du devin Balaam. Nombre 24, verset 7, « J'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. » Ça, c'est le côté enthousiasmant de cette guerre. Nous devons persévérer, nous devons tenir ferme après avoir tout surmonté, mais nous savons que l'ennemi a été vaincu. Nous avons la promesse d'une victoire définitive, complète. Amalek est la première des nations, mais un jour il sera détruit. Nombre 24-20. Amalek est la première des nations, mais un jour il sera détruit. Et cela s'est vérifié dans l'histoire biblique. Amalek a été constamment hostile à Israël jusqu'au règne d'Ézéchias. Et c'est 1 Chronique 4:41-43 qui nous raconte de manière très lapidaire, très sobre, la fin des Amalécites. C'est-à-dire aussi à la fin du 8e siècle avant Jésus-Christ. Combat de l'espérance, dont l'issue est certaine. Et c'est pourquoi, dans la panoplie des soldats du Christ, il y a le casque du salut. Dans 1 Thessaloniciens 5, 5 à 8, il est question du casque de l'espérance du salut. De la certitude de la victoire finale, d'un salut totalement accompli, d'une rédemption totale, complète, définitive, qui touchera nos corps aussi. Psaume 140, verset 8, « Éternel Seigneur, force de mon salut, tu couvres ma tête au jour du combat. » Tu couvres ma tête. Couvrir ma tête, c'est-à-dire couvrir le siège de ma mentalité, de mes pensées,
Mes pensées, ma mentalité doivent être bien orientées, protégées des traits du malin. Il importe que je développe un moral de vainqueur, une mentalité de victoire dans une juste perspective. Et l'ennemi se plaît à essayer de faire tomber nos casques. Il y a dans l'histoire de ce monde des anecdotes très intéressantes sur des conquêtes qui se sont opérées parce que l'ennemi avait perdu son casque. Je pense à l'antique cité de Sardes, dont il est question, vous le savez, dans les Écritures et dans l'Apocalypse, qui occupait un emplacement imprenable, le fleuve Pactole, d'où vient d'ailleurs le mot Pactole, avait creusé une profonde gorge sur trois côtés du plateau où elle était construite, et le seul moyen d'accès était un chemin assez raide tracé sur la pente sud. La ville était extrêmement riche. Le Pactole charriait des paillettes d'or, on comprend encore mieux maintenant. Et après toute une période assez extraordinaire, arrive l'envahisseur, qui d'ailleurs chaque fois use du même stratagème, il s'empare de la ville par le côté où elle n'était pas gardée. Les défenseurs de la cité ne veillaient pas du côté du précipice, et c'est par là que l'ennemi s'introduisit. Et dans l'histoire, on raconte qu'un des attaquants observa un garde de la muraille qui laissa tomber son casque. Et il emprunta un sentier extrêmement escarpé, et ainsi il parvint au bord du fleuve, ramassa son bien. Et aussitôt, les agresseurs de suivre de nuit le même sentier, de faire irruption dans la citadelle et de prendre les défenseurs par derrière. Tout cela parce qu'un soldat avait perdu son casque. C'est pour cela qu'il est d'autant plus important d'avoir une stratégie pour la gestion du monde de nos pensées. Ce n'est pas pour rien que j'ai évoqué à plusieurs reprises depuis vendredi soir tout ce monde de notre imagination, de nos fantasmes, cette invitation continue dans notre société à partir de concepts freudiens à nous laisser aller au niveau de nos pensées, et qui a pénétré dans l'Église et qui fait des dégâts énormes dans l'Église. Alors on se vante de ne pas tomber dans l'adultère, on se vante de ne pas vivre des scandales en matière sexuelle, cupidité, avarice et autres, alors qu'en réalité tout cela se passe de toute manière déjà dans le monde de nos pensées, de notre imagination. Et nous oublions que c'est à ce niveau-là que Dieu juge. C'est du regard intérieur qu'il s'agit. C'est du monde de nos pensées. Et le cœur qui, dans les Écritures, est le quartier général de notre individualité, le tréfonds de notre personnalité, un des termes clés des Écritures, près de 1000 fois dans les Écritures. Le cœur est représenté en particulier comme le siège de la pensée. Et mes amis, si nous n'apprenons pas à discipliner le monde de nos pensées, si nous pensons pouvoir leur laisser la bride sur le cou, nous serons aussi incapables de porter le casque de l'espérance du salut. Parce que jamais le casque de l'espérance du salut ne peut se tenir sur une tête à l'intérieur de laquelle les pensées sont laissées comme ça, la bride sur le cou. Toutes nos pensées doivent être amenées captives à l'obéissance de Christ. Avis à nous, si en tant que disciples de Jésus-Christ, nous avons des pensées qui sont continuellement polluées par n'importe quel message médiatique notamment par la voix de la télévision. Vous ne pouvez pas porter le casque de l'espérance du salut. Ne vous étonnez pas, ne nous étonnons pas si nous devenons des pessimistes, des revendicateurs, si nous broyons du noir, si nous sommes agressifs, mécontents, susceptibles, au lieu d'avoir cet esprit de victoire lié au casque de l'espérance du salut, dans la mesure où nous laissons au monde de nos pensées la bride sur le cou. Il faut venir à la croix. Il faut demander pardon, Seigneur. Il faut appeler le péché par son nom. Il faut que nous cessions de considérer, comme quelqu'un le disait avant moi, le péché comme un chou à la crème. C'est un serpent à sonnette. Il faut que nous l'appelions par son nom et que nos pensées véritablement soient captives de l'obéissance de Christ. Nous devons donc combattre avec un moral de vainqueur en regardant continuellement au grand vainqueur. Alors nous aurions pu développer, j'ai là toute une approche à partir de l'Apocalypse, puisque c'est un des grands thèmes de l'Apocalypse, que celui de la victoire, et certainement en particulier aussi parce que les églises auxquelles Dieu s'adresse dans les chapitres 2 et 3 de l'Apocalypse se situent dans des villes qui était dominé par Rome, et dans ces cités, dans un certain nombre de ces cités, il y avait notamment la déesse de la victoire, Niké. Niké, la célèbre déesse de la victoire. Et Dieu de rappeler aux membres de ces églises que ce n'était pas sur elle qu'il fallait compter. Et donc de dire, celui qui vaincra Nikon, c'est de la même famille, n'est-ce pas? Il faut choisir entre les déesses humaines de la victoire et puis le grand vainqueur. Il faut savoir de quel côté nous sommes. Ça, c'est le grand thème de l'Apocalypse. Notre combat est donc celui de l'espérance. Son issue est certaine, nécessité donc de tenir ferme, de persévérer, de penser à la victoire finale déjà acquise à la croix. Septième point, la guerre spirituelle nous place dans une situation de combat de la foi, ou encore mieux, de l'obéissance de la foi dans la parole de Dieu. Vous êtes sans doute frappé avec moi par le verset 14. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve. Nous sommes au bénéfice d'une obéissance. Le souvenir s'en est conservé, tout cela est venu jusqu'à nous. Écris cela pour qu'un jour les membres de l'église de Saint-Quentin-en-Yvelines et des autres églises de la région parisienne se souviennent de ce récit, de cette déclaration solennelle de Dieu par la bouche de Moïse. Et d'ailleurs, là encore, dans Deutéronome au chapitre 25, nous en avons parlé ces derniers jours, verset 17, « Souviens-toi de ce que te fit Amalek pendant la route. » Ou encore, nous l'avons vu hier soir en particulier, 1 Samuel chapitre 15, voyez l'unité des Écritures, Samuel dit à Saül, « C'est moi que l'Éternel a envoyé pour toi un roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel, ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. » Dieu se souvient. Dieu nous appelle à nous souvenir. Dieu n'a pas manqué d'accomplir sa parole. Et nous sommes, nous aussi, appelés à nous souvenir. Alors, ne soyons pas comme les Québécois. Hein. Je suis pratiquement chaque année au Québec, et je me souviens de mon premier voyage où ce qui m'a fortement intrigué, c'est l'indication qui figure sur les plaques minéralogiques à l'arrière de toutes les voitures. Vous avez ces trois mots, je me souviens. Alors vous les voyez partout. Vous lisez donc pendant votre séjour des milliers de fois, je me souviens, je me souviens, je me souviens. Alors vous dites, mais de quoi est-ce qu'ils se souviennent? Alors curieux que je suis, j'ai posé la question à des dizaines d'amis dans les voitures qui me transportaient, aux amis qui m'accueillaient à leur table, mais de quoi est-ce que vous vous souvenez? Quelle ne fut pas ma surprise de réaliser qu'au Québec, on souffre d'une amnésie générale. On ne sait pas de quoi on se souvient. Au point que les humoristes québécois se servent de cette amnésie pour mettre en boîte le peuple québécois. Vous vous souvenez de quoi? Alors un jour, j'ai été quand même délivré de ma situation angoissante. J'ai eu enfin réponse à ma question. Et j'ai d'ailleurs eu réponse à ma question auprès du pasteur d'une église qui n'était pas d'origine québécoise, qui était venu de France, qui s'était installé là-bas, qui avait été comme moi impressionné par la multitude de « je me souviens » qui avait fait sa propre enquête, qui s'était heurté au même problème que moi. Nous avons pleuré ensemble et nous avons ri ensemble à ce sujet. Et qui un jour en a eu assez. Alors il est allé dans la ville de Québec, au grand palais du gouvernement de Québec. Il l'a demandé, il a posé des questions, elle a finalement amené dans un service, et dans ce service, on lui a sorti un beau texte dans lequel il était expliqué les raisons du souvenir, la religion passée, la langue passée, la culture passée, trois grands éléments dominants dans l'histoire du Québec. Et il était tellement bouleversé qu'il a amené ce texte chez lui, il l'a encadré, et il me l'a montré, là, trônant dans une des pièces. Je me souviens. Pourquoi est-ce que nous disons cela? Nous avons dit comme caractéristique que cette guerre spirituelle est un combat de l'obéissance de la foi en la parole de Dieu. Il est question de la parole de Dieu. Et j'aimerais brièvement, pour développer cette réflexion, revenir à cette première grande mission clairement ordonnée par l'Éternel à Saül dans 1 Samuel 15, savoir la destruction totale d'Amalek. Dieu dit par la bouche de Samuel à Saül, tu vas détruire Amalek totalement, tu n'épargneras personne, parce que je me souviens. Nous avons vu ensemble, et vous pourrez relire 1 Samuel 15, que Saül a oublié de se souvenir. Saül a oublié de prendre la parole de Dieu au sérieux. Au pied de la lettre. Arbitrairement, volontairement, il a affaibli la portée, la dimension du message divin. Il a fait le travail à moitié. Et le résultat, nous l'avons vu, il a perdu sa couronne. Ce jour-là, à l'issue de cette bataille, et Dieu lui a parlé de manière extrêmement solennelle. 1 Samuel 15, 22, voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'obéissance et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Saül, tu n'as pas obéi à ma parole. Tu as discuté avec moi, tu t'es cru plus intelligent que moi. Tu as pensé qu'on pouvait épargner Agag sans qu'il y ait des conséquences. Tu as aménagé la parole. Sa victoire partielle dans la désobéissance a signé sa défaite définitive au regard de Dieu. Et je voudrais m'adresser à chacun d'entre nous au sujet des libertés que nous prenons avec la parole de Dieu. Au nom de notre intelligence, de notre culture, nous sommes tellement plus sages que Dieu. Nous pensons qu'ici et là, nous pouvons atténuer, transformer, interpréter. Nous prenons beaucoup de liberté. Et un jour, nous nous retrouvons dans la peau de Saül. Nous avons perdu la royauté. Nous avons perdu le diadème de Samuel, chapitre 1er. J'ai enlevé le diadème qui était sur sa tête. C'était un Amalécite qui parlait. Combat fondé sur l'obéissance à la volonté de Dieu, l'obéissance à sa parole. Quelqu'un écrit, la volonté de Dieu, c'est que nous marchions dans l'obéissance et pas nécessairement dans la victoire. L'obéissance est centrée sur Dieu et la victoire sur nous-mêmes. Il vous semble peut-être que je subtilise à l'excès, mais à la base de bien de nos difficultés avec le péché se trouve une attitude d'égocentrisme à peine perceptible. Nous ne marcherons avec persévérance dans la sainteté que si nous corrigeons cette attitude et si nous cherchons à nous en débarrasser. Loin de moi la pensée que Dieu ne désire pas la victoire dans nos vies. Je tiens seulement à souligner que celle-ci est un sous-produit de l'obéissance. Lorsque nous nous efforçons de mener une vie obéissante et sainte, nous finissons par éprouver la joie de la victoire. Ce qui compte, c'est d'abord mon obéissance. Que je ne discute pas avec les Écritures, que je prenne l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Que je la prenne au sérieux. Que je ne la manipule pas, que je n'en affaiblisse pas le sens et la portée. Ne sous-estimons pas l'ennemi, Amalek. Ne pensons pas que nous pouvons négocier avec lui. Dieu nous dit non. Tu n'épargneras pas, Amalek. Ah, mais Seigneur! Il est si beau. Non, tu ne l'épargneras pas. Quelle place occupe la parole de Dieu dans ma vie? Est-ce que je m'appuie sur les promesses de Dieu dans sa parole? Est-ce que je brandis ces promesses face à l'ennemi? Non pas en les utilisant comme une sorte de talisman, de fétiche, de mot de passe, de sésame, ouvre-toi. Non. Mais parce que véritablement je les sers dans mon cœur, dans cette intimité avec lui. Est-ce que je mémorise, est-ce que je murmure la parole de Dieu? Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le mal. Ah, je vous pose la question, qu'en est-il de la place des Écritures dans ma vie? Comment est-ce que je les approche? Est-ce que vraiment la parole de Dieu est autorité suprême dans ma vie en matière de foi et de conduite? Vous savez que ça devrait être la caractéristique de la famille évangélique. Mais jamais l'autorité des Écritures n'a été aussi contestée qu'aujourd'hui dans nos églises évangéliques. Jamais on a fait autant de tri entre ce qui nous arrange et que nous sommes tout à fait prêts à observer et ce qui nous dérange et que nous laissons soigneusement de côté. Enfin, huitièmement, et cela m'encourage beaucoup, cette guerre spirituelle est nécessaire. Elle est indispensable. Elle est incontournable. Parce que nous pourrions accuser Dieu d'une sorte de cruauté mentale, d'un certain sadisme, en disant, mais comment est-ce que tu peux avoir mis cela au point pour tes enfants? Non, Dieu, nous l'avons vu, Dieu contrôle cette guerre, mais cette guerre nécessaire, qui fait aussi partie de l'arsenal pédagogique, formateur, entre les mains de notre Dieu. Nous l'avons lu en introduction, vendredi soir, Juge 3, 1, 4, nécessité pour ceux qui n'avaient pas connu la guerre, d'apprendre la guerre, d'être mis à l'épreuve en vue de l'obéissance à Dieu. Je pense à 1 Chronique 5, 18 à 23, où il est dit « Le combat venait de Dieu ». Je pense à ce psaume 144, verset 1er, lu également dans notre introduction. « Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. » Ce combat est nécessaire. Il nous stimule. Il nous évite de nous attarder, de traîner en arrière, de garder les yeux tournés vers l'Égypte attachée au monde. Ce combat nous permet de produire des anticorps pour lutter contre le péché, contre Amalek, contre ce moi égoïste, contre l'ennemi. Ce combat nous permet d'infliger de terribles défaites à l'ennemi. Ce combat nous rend vigoureux spirituellement. Il nous aguerrit. Le philosophe grec Héraclite a écrit ceci, « Là où il n'y a pas de lutte, s'installe la décrépitude. Le mélange qui n'est pas agité se décompose. » Et allant tout à fait dans le même sens, Lucien Barnier, ce scientifique décédé il y a déjà un certain nombre d'années, qui a été aussi membre du Parti communiste français, de ses hautes sphères, mais un scientifique de renommée internationale, et qui 2 ans avant sa mort a écrit un livre remarquable intitulé « J'ai quitté le parti pour Dieu », écrira dans ce livre « L'histoire européenne s'est façonnée à grand renfort de guerre et de sacrifices. Les peuples béats et comblés ne tardent pas à s'enfoncer dans la somnolence de la digestion. » Lorsque l'être humain reçoit des autres, c'est-à-dire de la collectivité, tous les attributs de la sécurité, il est perdu, il s'abolit, il se fabrique forcément une âme de nourrisson. Et Dieu ne veut pas que nous ayons une âme de nourrisson. Dieu ne veut pas que nous soyons infantilisés en permanence. Il veut faire de nous des chrétiens adultes. Et se refuser, se dérober, refuser le combat, c'est devenir très rapidement tortueux, c'est faire des compromis avec ce que nous savons être juste, c'est céder aux pressions du monde. Comme certaines rivières qui sont tellement sinueuses, n'est-ce pas? Tout simplement parce qu'elles préfèrent contourner les zones dures plutôt que de creuser un lit solide. Elles ne veulent pas de résistance. Alors elles contournent. Elles contournent. Ce combat fait partie de l'arsenal de Dieu servant à nous préparer pour le ciel. Ce combat ouvre nos yeux sur la beauté du caractère de Dieu, sur sa toute-puissance, sur son amour et sa fidélité parfaite. Ce combat participe à notre transformation progressive à la ressemblance de Jésus. Ce combat nous permet de prendre place peu à peu dans la catégorie des chrétiens hyper vainqueurs. plus que vainqueur. Tout cela, c'est une sorte de butin pris à l'ennemi vaincu. Et je vous cite là un extrait d'un livre remarquable publié au Québec par une des anciennes personnalités de la CMA, cette grande mission internationale. Et il écrit ceci: les deux choses dont le chrétien a le plus besoin, c'est la puissance de croire et la puissance de souffrir. Et c'est notre ennemi qui peut nous enseigner ces deux choses. Bien souvent, ce n'est que lorsque nous sommes sur le point de craquer sous le poids de la pression que nous apprenons le secret de la victoire. Pour enseigner à ses enfants le maniement des armes spirituelles divines, le Seigneur permet au diable de jouer au sergent instructeur dans son armée céleste et de soumettre ses enfants à un entraînement intensif. Voilà pourquoi vous devriez regarder comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposé, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. En effet, et en fait, être plus que vainqueur, c'est recevoir les leçons de l'ennemi qui vont vous rendre capable de faire face aux prochains assauts. Nous pourrons alors les affronter sans craindre la défaite. Il y a cependant des choses qu'on ne peut pas apprendre facilement. Il semble que nos sens spirituels aient besoin de la tension, des difficultés, des souffrances pour réveiller toutes leurs capacités et pour nous obliger à tester toutes les ressources de la grâce céleste. L'école de la foi de notre Dieu est toujours une mise à l'épreuve et son école d'amour passe par des provocations et des injustices. Être plus que vainqueur signifie aussi que la victoire que nous remporterons sera telle que le feu du combat nous sera bénéfique et contribuera à notre propre cause et à celle de notre maître. Il est possible, dans un certain sens, de faire de nos ennemis des prisonniers et de les amener à combattre dans nos rangs, ou du moins de leur faire exécuter les gros travaux du camp. De la même façon, il est possible de retirer tant de bonnes choses des attaques de Satan qu'il peut en fait, bien malgré lui, devenir notre allié. Ensuite, à son regret éternel, il découvrira qu'il nous a bel et bien rendu de réels services. Être plus que vainqueur signifie que nous pouvons avoir une victoire si totale qu'elle finira par briser la puissance de l'ennemi. Cette même victoire ne nous protégera pas seulement contre les attaques, mais elle affaiblira et détruira d'une manière efficace la force de l'adversaire. C'est d'ailleurs un des buts de la tentation. Nous pouvons travailler de concert avec Dieu en détruisant le mal. Combien tout cela est encourageant. Dieu n'est pas un Dieu arbitraire, Dieu n'est pas un Dieu cruel, Dieu n'est pas un Dieu menteur, Dieu n'est pas un Dieu sadique. Dieu est un pédagogue extraordinaire qui sait de quoi nous avons besoin dans notre préparation pour le ciel. Et enfin, neuvièmement, et je conclus sans développer, dans cette guerre spirituelle, nous combattons pour l'honneur de Dieu. Nous combattons pour l'honneur de Dieu. C'est la conclusion du texte, versets 15 et 16. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière, Yahvé Nissi. Il dit: parce que la main est élevée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Moïse bâtit un autel à l'Éternel. Éternel, tu es mon signe de ralliement. Tu es mon autorité suprême, tu es mon général en chef, tu es mon étendard. Tu es le vainqueur. À toi revient toute la gloire. Il ne nous est pas dit dans ce texte que Moïse ait fait bâtir un arc de triomphe au général Josué. Or, c'était chose courante à l'époque. Absalom est allé se construire un monument et le texte hébreu laisse entendre que c'était une main. Oui, une main. C'est dans le texte ici. Mais il est question d'une main. Et les mains étaient symboles de puissance. Et quand on construisait en monument une main, ça voulait dire qu'on inscrivait sur cette main toutes ses victoires personnelles. Dans 1 Samuel 15 que nous avons lu, où Samuel, enfin, comment Samuel va-t-il savoir ce que fait Saül? On va lui dire, il est allé se construire un monument. Le texte hébreu dit une main. C'est-à-dire qu'il était en train, lui aussi, d'ériger un monument en son honneur en tant que roi victorieux. Une main. Nous, nous combattons pour l'honneur de Dieu. Les Amalécites ont osé lever la main contre ton trône. C'est à ta majesté qu'ils se sont attaqués, ils t'ont méprisé. Ils sont tombés sur ton peuple sans aucune crainte de ta personne, est-il dit dans Deutéronome 25, 18. C'est avant tout ton honneur qui a été bafoué. En s'attaquant à ton peuple, c'est à toi, ô Éternel, qu'ils se sont attaqués. Et je comprends que tu sois toujours en guerre contre eux. Et là, en terminant, je souligne simplement que Moïse nous donne une leçon de théocentrisme. Il est centré sur Dieu. Dans la guerre, il n'est pas centré sur lui. Ce n'est pas ma guerre, ce n'est pas ma victoire, ce n'est pas mon combat. C'est la guerre de l'Éternel, c'est le combat de l'Éternel, c'est la victoire de l'Éternel. Il révèle ses motivations profondes. C'est un combat pour la gloire de Dieu et non une recherche d'une victoire personnelle dont nous tirerons gloire aussitôt. Mon but dans la guerre spirituelle, c'est de faire honneur à mon chef. C'est pour lui que je combats. C'est sa force qui fait de moi un vainqueur. Rappelons-nous ce que l'Éternel dit à Gédéon lorsqu'il était en face des 135 000 Madianites. Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire « C'est ma main qui m'a délivré. » C'est pour cela que Dieu se plaît à combattre à partir de notre faiblesse. Jamais nous ne sommes aussi forts que lorsque nous sentons notre propre faiblesse et que par saine réaction, nous regardons à la force de Dieu. Ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Que nous lui donnions donc gloire aussi à la fin de ce week-end. Que nous lui rendions honneur. Il est notre commandant suprême. Qu'il soit glorifié. Que nous jetions nos couronnes à ses pieds. Il est digne d'être adoré par ses soldats qui sont aussi ses enfants. Nous voulons prier. Priez, Seigneur, pour te dire un immense merci. Merci pour la beauté de ta parole. Merci aussi pour la véracité de ta parole. Merci parce que elle se vérifie dans sa fiabilité sur le terrain. Seigneur, nous l'avons tant de fois expérimenté. Nous te remercions de ce que ce ne sont pas des discours de haute philosophie. Non, Seigneur. Merci pour la véracité des Écritures. Merci parce que tu n'es pas un Dieu menteur. Merci pour ta fidélité à tes promesses. Merci pour la vérité de tes enseignements. Oh, applique-les vraiment à nos cœurs, à nos situations, à nos comportements personnels. Fortifie-nous. Affermis-nous. Rends-nous plus mûrs, plus adultes, plus stables, plus équilibrés. Oh, forme-nous, Seigneur. En vue de l'éternité à passer avec toi. Merci, ô notre Dieu, en Jésus-Christ.